Eh bien, en principe, la conquête de la Gaule ne devrait pas nous intéresser dans cette série puisqu'elle se déroule à la fin de la République. Mais cette conquête, un homme l'a voulu. Elle était d'ailleurs sans doute inévitable, elle était inscrite sur la carte de l'expansion romaine. Mais il me semble que ce n'est pas pour des raisons tellement de politique extérieure que César a entrepris de conquérir la Gaule. C'est surtout, je crois, pour des raisons d'ambition personnelle. En effet, César a été le premier, si l'on peut dire, des empereurs, bien qu'il n'ait pas vraiment porté le titre. Et s'il a réussi à conquérir le pouvoir, c'est un peu parce que, justement, la conquête de la Gaule lui a fourni les moyens de conquérir ce pouvoir. Michel Rambaud, nous reparlerons demain de l'expérience politique de César, de ces années pendant lesquelles il a gouverné Rome. Aujourd'hui, je voudrais d'abord vous demander en quoi la Gaule a constitué pour lui un instrument de conquête du pouvoir.
Eh bien, César, par ambition, et l'historien Salluste l'avait noté, souhaitait une grande guerre où sa gloire pouvait paraître. Et, semble-t-il, il n'a pas visé d'abord la Gaule. Il a peut-être eu le dessein de conduire une armée romaine vers le Danube, où il y avait de très vastes territoires à conquérir, et c'est le Sénat, où il comptait déjà pas mal d'ennemis, qui lui a octroyé le gouvernement de la Gaule transalpine, notre actuelle Provence, pour l'orienter en sens contraire. Voici donc César, qui se trouve dans l'année 58 avant Jésus-Christ, aux prises avec une migration de population, les Helvètes, qui est amené à les combattre, à les poursuivre jusque dans la région d'Autun, et qui ainsi se trouve engagé dans une guerre gauloise. Et à partir de là, il va, me semble-t-il, saisir toutes les occasions de faire rebondir d'année en année sa conquête, de manière à tirer le plus grand profit de cette entreprise. Et en même temps, la géographie, comme vous le disiez, cette conquête de la Gaule était inscrite sur la carte, en même temps, la géographie y portait. Je crois que vers cette époque, César a conçu le dessein d'ouvrir une sorte de grand axe terrestre qui irait de l'Italie du Nord, région d'Ivrée, Vercelli, disons pour simplifier, région de Turin, jusqu'à la région de Boulogne. Et ici, nous voyons paraître l'économie, car si cette taxe tombait entièrement aux mains des Romains, il y avait non seulement de très beaux territoires à conquérir, il n'y a qu'à voir que sur cette ligne qui va du nord-ouest de l'Italie jusqu'à Boulogne, il y a la Franche-Comté, il y a la Champagne, il y a des terres très vastes, mais probablement aussi César se proposait d'atteindre une des routes de l'étain qui venait des îles de Grande-Bretagne.
Oui, donc il y a à cette conquête des motivations économiques. Alors, des motivations économiques qui sont, si je puis dire, romaines, en ce sens que l'économie romaine peut avoir beaucoup à gagner à cette conquête, mais des raisons économiques qui tiennent aussi aux facteurs plus proprement politiques, c'est-à-dire aux liens qu'entretenait César avec les milieux d'affaires.
Il est certain que César a entretenu des liens considérables avec les milieux d'affaires, ne serait-ce qu'à cause de sa carrière politique antérieure, qu'il avait endetté considérablement. On ne pouvait pas faire une grande carrière politique à Rome sans dépenser énormément d'argent. César n'en avait pas. Sa manière à lui d'être riche, c'était d'emprunter beaucoup. Il devait de l'argent au plus riche des Romains de l'époque, son ami Crassus. Il devait certainement de l'argent à beaucoup d'autres. Et bien entendu, une vaste conquête comme celle de la Gaule allait lui permettre de liquider ses dettes et d'acquérir de nouvelles ressources par lesquelles il préparerait son ascension au pouvoir. Les textes anciens nous apprennent que la Gaule regorgeait d'or. C'était un pays de mines d'or, nous ne pouvons pas l'imaginer maintenant, mais dans les torrents de l'Auvergne, il y avait, paraît-il, des pépites, comme il y en avait autrefois en Amérique du Nord. Et puis, il y avait une très nombreuse population, et la guerre permettait évidemment de faire des captifs, donc de vendre des hommes comme esclaves. Alors, pour pouvoir ainsi vendre des esclaves, il fallait que l'armée de César fût suivie d'un prêt par des négociants romains qui devaient sur place traiter ses affaires. Il n'était pas question que César envoie lui-même des esclaves à vendre à Rome. C'était impensable. Tandis que les négociatores, puisque c'est le terme, ou les mercatores, accompagnaient l'armée. Autre indice, lorsqu'il fait la deuxième expédition en Grande-Bretagne, il y a peut-être 100 ou 200 bateaux de plus qu'il n'est nécessaire. Les historiens se sont interrogés sur l'utilité de ces bateaux et ils ont pensé qu'ils partaient vides pour revenir pleins d'esclaves, c'est-à-dire de Britannie, n'est-ce pas, de Bretons, qu'on aurait fait captifs et vendus à Rome. Je dois dire que j'ai essayé, d'après des prix d'esclaves indiqués dans les comédies de Plaute, je sais que c'est un anachronisme, mais enfin cela fixe un peu les idées, on se rend compte que la vente de populations, car il y a eu quelquefois des populations vendues, plusieurs dizaines de milliers de personnes, permettait, comme on dirait maintenant, d'introduire une masse d'argent frais, n'est-ce pas, dans le budget de César, de régler certaines dettes qui concernaient l'entretien de l'armée, car une partie de l'entretien de l'armée, d'ailleurs, n'était pas tout à fait réglementaire. Il avait mobilisé plus de légions qu'il n'avait le droit de le faire, et bien entendu de rembourser ses dettes.
Donc il fallait ces immenses ressources derrière cet homme pour qu'il puisse à Rome entretenir à la fois les moyens militaires et les moyens politiques d'accéder au pouvoir. Alors cette conquête de la Gaule, comment se déroule-t-elle? Est-ce que ces préoccupations économiques dont on vient de rappeler l'existence ont été décisives dans la façon dont César a conçu cette conquête?
Je crois que dans le début de la conquête de la Gaule, il y a une part de hasard. Il y a le fait que les Helvètes ont voulu faire cette migration au moment où César s'est trouvé responsable de la région la plus proche de l'Empire romain. Il aurait, après tout, pu obliger les Helvètes à passer par une autre route et neutraliser la situation. Il a choisi de déclencher une guerre. À partir de là, il y a plusieurs préoccupations à la fois géographiques et économiques qui paraissent dans son entreprise. L'une est donc d'organiser cet axe qui permettrait d'utiliser la voie de terre depuis Boulogne, depuis Calais, jusqu'à l'Italie du Nord, mais il fallait passer par le col du Grand Saint-Bernard, que les commerçants de l'époque connaissaient très bien. Or, les montagnards de la région, quand ils reçurent une expédition envoyée par César, résistèrent de telle manière que la région de Martigny, la clé, n'est-ce pas, de la route du Grand Saint-Bernard, ne put pas être occupée par les Romains. Ce projet, c'est Auguste qui le réalisera plus tard en conquérant le Val d'Oste et Martigny. Alors, il y a donc l'esquisse d'une ligne commerciale mais qui ne sera pas entièrement libre parce qu'il faudra que les Romains continuent à payer des espèces de droits de douane aux populations, que les gens du pays m'excusent, mais aux populations alors barbares, n'est-ce pas, qui entouraient le col du Grand Saint-Bernard. À ce moment-là, César va développer sa conquête un peu dans toutes les directions et notamment sur le littoral de l'Atlantique. Je passe les péripéties, mais l'Aquitaine va être conquise par un de ses jeunes lieutenants, Crassus, justement le fils du grand personnage à qui il devait tant d'argent et qui avait été placé dans son armée sans doute pour surveiller un petit peu les affaires. Et la conquête de l'Aquitaine a une conséquence proche ou lointaine évidente, c'est que le commerce venant de l'Atlantique ou recueilli le long de la côte atlantique, il y avait une très abondante navigation gauloise, va pouvoir passer par une ligne que nous appellerons la ligne de Bordeaux, Agen, Toulouse, Narbonne, et qu'ensuite les bateaux romains n'auront qu'à aller chercher les denrées, les richesses drainées dans cet ouest gaulois pour les amener par cabotage jusqu'en Italie. Il ne faut donc pas s'étonner, entre parenthèses, qu'on trouve tant de bateaux de commerce naufragés avec leurs amphores, n'est-ce pas, le long de notre littoral. Tout se tient Et alors je crois que l'ouverture de cette autre ligne commerciale, cette espèce d'isthme gaulois, a une conséquence, c'est de mécontenter les peuples du centre de la Gaule qui se trouvent complètement encerclés et neutralisés économiquement.
Et alors là, nous en arrivons à l'épisode central, enfin à l'épisode le plus connu de la conquête de la Gaule, c'est cette fameuse révolte, et c'est la part que Vercingétorix a pris à cette révolte.
Ah, vous touchez là à un véritable mystère historique. Est-ce que Vercingétorix est le héros national incarnant toute la résistance gauloise ? Est-ce que, certains l'ont dit, mais je ne le dis pas, il n'a pas été au contraire tellement maladroit que on en vient à l'accuser d'avoir été l'agent secret de Jules César pour compromettre la cause gauloise. Vous voyez les deux extrêmes. Je pense que la vérité se situe entre deux, que depuis plusieurs années, des populations gauloises se soulevaient déjà. Et il y a un moyen de faire le bilan annuel, c'est de regarder où César place les quartiers d'hiver de ses légions. Selon la coutume romaine, on combattait pendant la belle saison et on restait sur place en hiver. Eh bien, à la fin de l'année 54, les quartiers d'hiver sont dans le nord-ouest de la Gaule. On peut les situer, si vous voulez, vers Beauvais, vers Boulogne, peut-être vers Cambrai. Il y en a même qui sont dans la Belgique actuelle. L'année d'après, les quartiers d'hiver sont autour de Sens, de Reims, de Langres. Eh bien, je crois que pour un conquérant qui vient d'Italie, c'est une retraite. C'est une retraite de plus de 150 ou 200 kilomètres en distance linéaire. Et même après la victoire sur Vercingétorix, les quartiers d'hiver sont installés, pour une part, dans le centre de la Gaule, vers Autun, et même sur la Saône, à Châlons et à Mâcon. C'est là que se trouve, si vous voulez, le centre de gravité de l'armée romaine. Je considère donc que César a, malgré des victoires, a reculé pendant 2 ans. Et que même la victoire sur Vercingétorix, même la capture de Vercingétorix, n'était pas tout à fait décisive. Très importante, mais pas tout à fait décisive. Le paradoxe, c'est que la Gaule a vraiment été vaincue l'année d'après, en 51, et que César n'a même pas éprouvé le besoin de le raconter, parce que ça allait de soi, n'est-ce pas ? Alors, Vercingétorix, je pense que il a été, par une mission que lui confiaient ses compatriotes, le chef d'une armée permanente d'environ 80 000 guerriers. On voit toujours, que, d'après les textes, que lorsqu'il a perdu du monde, on lui renvoie des renforts, mais il a toujours 80 000 guerriers. Et son rôle était d'apporter du secours à chacun des États gaulois qui se révolteraient à son tour contre César. Il a donc été un général des Gaulois, le chef des armées d'appoint et finalement le plus exposé, parce que bien sûr, quand César a pu l'écraser, une fois qu'il a écrasé cette force mobile des Gaulois, il gagnait sa liberté de manœuvre. Mais c'est ainsi que je verrai le rôle de Vercingétorix, qui n'a donc été ni le très grand chef, ni non plus le traître qu'on a voulu, mais une sorte de général d'un corps d'armée mobile, n'est-ce pas, et organisé en commun par les Gaulois.
Quelle a été l'erreur décisive de Vercingétorix ?
Ah, l'erreur décisive a certainement été de se laisser enfermer dans Alésia, et peut-être ne pouvait-il pas aller plus vite et échapper à César qui le poursuivait à ce moment-là. Mais il est certain qu'avec une armée à effectif limité, il ne pouvait pas soutenir indéfiniment un siège. Il aurait dû, si j'ose employer l'expression en parlant de Vercingétorix, se prendre le maquis à ce moment-là et peut-être se disperser, disperser son armée pour quelque temps.
Bien, Michel Rambeau, avant de terminer, je voudrais que vous nous disiez 2 mots sur les aspects humains de cette conquête. Est-ce que elle a été très dure ?
Il y a, dans la mentalité de César, une vision morale de l'humanité qui correspond, je crois, à tout un aspect de la mentalité antique. Pour les Grecs, par exemple, il y a les Grecs, qui sont des gens civilisés, et ceux qui ne sont pas Grecs, qui sont des barbares. Pour les Romains, il me semble que la vision est beaucoup plus nuancée et que le Romain, en général, comme Sherwin White l'a montré dans un livre récent, n'est pas raciste. Mais il y a une sorte de vision dégradée de l'humanité. J'emploie dégradé au sens où les dessinateurs, n'est-ce pas, les peintres, l'emploient comme un dégradé de couleur. Il y a donc, parmi les populations non romaines, et notamment chez les Gaulois, des groupes humains qui sont considérés comme très civilisés, humanissimi. Puis il y en a qui le sont un petit peu moins, il y en a qui le sont vraiment trop peu, c'est en particulier ceux qui refusent d'acheter du vin. On dirait que l'aspect économique et l'aspect moral se rejoignent ici, mais nous avons de vieux ditons français, n'est-ce pas, qui disent que les buveurs d'eau sont méchants. Et puis, plus loin que ces buveurs de bière du Nord, il y a des populations considérées comme tout à fait barbares. Je pense que cela peut expliquer l'attitude de César envers tel ou tel peuple et le fait qu'il ne les a pas traités tous de la même façon.